Bonjour à tous, frères et sœurs. Gloire à Dieu. J'ai à cœur de vous parler de quelque chose dont je vous ai parlé de temps à autre, mais mes convictions se sont affermies. Donc, je vous invite à faire une lecture dans la première épître aux Thessaloniciens, le chapitre 5 et le verset 17 et 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17 et 18. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur, à annoncer ta parole. Que le Saint-Esprit me fasse dire exactement ce que toi tu veux, que la même disposition que tu voudras bien mettre dans mon cœur soit dans chacun de mes frères et sœurs. Seigneur, nous comptons sur toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais le Saint-Esprit nous rappelle ton enseignement, ta parole, nous conduit dans la vérité, qu'il agisse, qu'il parle. Nous te le demandons, notre Père, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Si je pouvais donner un titre à cette prédication, peut-être pour ceux qui enregistrent, ça serait le plaidoyer en faveur de la prière. Je sais que nous prions. Je sais que notre vie, lorsque nous sommes à l'assemblée, est baignée de prière. Je sais que parfois, quand nous entendons, eh bien, que quelqu'un tombe malade ou qu'il y a un problème, nous allons prier pour vous. Et c'est extraordinaire de savoir que nous avons cette grâce, je dirais même cette arme victorieuse qui nous permet de remporter les victoires. Alors la prière par elle-même, ce n'est pas une fin en soi, dans le sens que nous nous rendons compte que dans toutes les religions, partout, les gens prient. Mais la différence, elle est toute là. Vous, frères et sœurs, qui avez rencontré le Seigneur, sachez que vous avez l'unique, seule et exclusive prière qui est entendue du Dieu Créateur, qui est écoutée parce qu'elle est prononcée au nom de Jésus qui a tous les mérites. C'est donc celle-là, la vraie prière, c'est de celle-là que je veux parler. Parce qu'en réalité, si nous voulons comprendre cet impact de la vie de prière que nous avons et qui sera des retombées de grâce et de bénédiction sur la terre entière, je crois que pas un ne va se soustraire à cette vie de prière. C'est une grâce. Alors prier, comme je vous le disais, on entend parler dans toutes les religions. Je vais plutôt parler, et je ramènerai ce terme de temps à autre, ça veut dire se tenir devant le Seigneur. Élie pouvait dire, l'Éternel devant qui je me tiens m'a révélé. Et donc vous savez que la prière efficace de Élie a fait qu'il a pu voir le ciel se fermer et le ciel s'ouvrir. Et nous sommes de la même nature. Il se tenait devant le Seigneur. La prière, c'est chercher le Seigneur, invoquer le Seigneur, c'est vivre en communion avec lui et, dirais-je, demeurer en lui comme l'a enseigné Jésus. C'est aussi intercéder, supplier, louer, remercier et adorer. Voyez-vous dans la prière ce qu'elle n'est pas. Parce que parfois, nous pouvons dériver sans nous en rendre compte. Jésus dira que les pharisiens pensaient qu'à force de paroles, ils seraient exaucés. Au fond, la prière, ce n'est pas un flot de paroles pendant des heures. Plus on parle, plus on va eh bien, être exaucé. Non, le Seigneur a dit que ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas la question de la quantité ou de l'élocution ou du pouvoir oratoire mais c'est surtout la foi, la disposition de cœur que nous avons envers Jésus et ce désir d'être en communion avec lui. La prière, ce qu'elle n'est pas, c'est elle n'est pas un devoir servile ou obligatoire, en se disant « Oh, j'ai pas prié !» Et puis peut-être être superstitieux, « J'ai pas prié aujourd'hui, alors je ne sais pas ce qui va m'arriver. » Non, la prière, il ne faut pas la voir comme ça. Le Seigneur nous montre que si finalement ce n'est pas une obligation, on n'est pas sauvé par la prière, quoique celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais je veux dire que ce n'est pas par la pratique maintenant de la prière que nous sommes sauvés, mais, soyons clairs, nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et pourtant, le découlement de notre vie, eh bien, ça va être une vie de prière. Ce n'est pas non plus une position ou un état ostentatoire avec lequel on pourrait dire, eh bien, je vais prier, mais je vais prier à genoux, ou debout, ou assis, peu importe. Ou les bras en croix, pour se faire souffrir. Il ne faut pas voir la prière dans ce sens-là, mais il faut la voir dans sa juste place, comme le Seigneur nous l'a enseigné. Donc la prière, c'est le moyen de communier avec le Seigneur, et c'est de cela que nous avons besoin, parce que chacun d'entre vous devait avoir une vie personnelle en communion avec Jésus. L'avez-vous ? Quelqu'un me disait, je ne sens plus la présence du Seigneur. Et après, il me dit, pourquoi ? Parce que je ne passe pas du temps devant le Seigneur. Tout est là ! Je ne sens plus la présence du Seigneur parce que je ne passe pas du temps devant lui. La prière, c'est le moyen, c'est cette communication que le Seigneur nous a tous confiée et donnée. Maintenant, la pratiquons-nous. La prière, c'est se confier en lui. Ce n'est pas une prière, comme je vous le disais, de parler, mais chaque fois que vous demandez, croyez, ayez foi en Dieu, ayez la foi de Dieu, n'hésitez pas de croire l'impossible, parce que le Seigneur dépasse toutes les possibilités, toute l'impossibilité. Il est au-dessus de tout, il n'a rien au-dessus de lui. Il a tous les pouvoirs, et il faut que nous prions avec foi, et le Seigneur nous l'a demandé, ayez foi en Dieu, car celui qui doute, il ne s'attend pas à recevoir quelque chose du Seigneur. Par la prière, nous allons voir une grande efficacité. Vous l'avez déjà expérimenté pour beaucoup, vous le savez. La prière fervente du juste a une grande efficacité. On ne pourra pas mesurer en parlant sur la terre, mais c'est quand on sera devant le Seigneur qu'on va mesurer l'impact, les retombées de nos prières de foi devant le Seigneur, en voyant tous ceux qui auront pu être sauvés grâce à notre intercession, à tous ceux que le Seigneur nous a fait éviter comme chute parce que nous avons prié. Quelle efficacité, pourquoi donc s'en passer? Pourquoi donc la négliger? Pourquoi donc peut-être écouter cela en se disant d'une manière indifférente, j'ai mon problème aujourd'hui, nous y venons. Si deux, trois s'accordent, si deux sur la terre s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée, la prière. Avec quelqu'un qui pense pareil, qui a le même fardeau, on se met en accord et on prie. Serait-ce, j'ouvre une parenthèse, dans le couple, pour que notre couple tienne, se renforce, soit béni, priez ensemble, le faites-vous. C'est important. Déjà, on est d'accord normalement entre le mari et la femme. Et pour cela, accordons-nous, prions pour la consolidation du couple, pour nos enfants, nos parentés, nos amis, le monde. C'est plus possible ensuite que l'ennemi vienne trouver quelques failles dans la vie de couple quand nous nous accordons, si deux sur la terre s'accordent, prier ensemble. Bien sûr, il est question de la vie de prière dans l'assemblée, où nous sommes tous d'accord, où des sujets nous sont portés, et puis nous en voyons tous ensemble, on prend à cœur. Nous le savons dans le Nouveau Testament, ils se mirent tous ensemble d'accord, parce qu'on persécutait les apôtres, et là, le Saint-Esprit est descendu, il y a eu une grande victoire. Nous devons prier dans cette attente. Et puis, voyez-vous, prier, la communion avec le Seigneur, c'est trouver le repos. Le repos, la paix, c'est écrit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, va garder vos cœurs en Jésus-Christ. Voyez-vous, quand on prie, on a le repos, parce qu'il y a une tourmente, il y a un esprit qui régit le monde. Et le repos, Jésus l'a dit, vous trouverez du repos pour vos âmes, mais aussi faut-il venir à lui, fatigué et chargé. Demandez et vous recevrez. Alors c'est là que je me rends compte que quand on demande, eh bien, il y a aussi un sujet qui nous est donné, l'on reçoit. Alléluia. Jésus a dit qu'il a enseigné la prière. Donc, nous sommes dans la saine doctrine, dans l'enseignement de Jésus. Ce n'est pas un enseignement d'une église, d'une dénomination, mais c'est l'enseignement de Jésus. Quand vous priez, dites, vous connaissez la suite, notre Père qui est aux cieux et jusqu'au bout, le Seigneur dit, voilà comment vous devez prier, non pas la réciter d'une manière mécanique, mais en pensée, la puissance, la valeur, la profondeur de cette prière. Jésus dira, demandez et vous recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, je le ferai. Veillez à prier en tout temps pour que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui va arriver dans le monde. C'est écrit. Et puis les disciples ont dit, mais Seigneur, pourquoi nous n'avons pas pu chasser cet esprit qu'il y avait dans le fils lunatique? Jésus dira, cet esprit-là, cette espèce d'esprit-là, ne sort que par la prière et le jeûne. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. Priez sans cesse. Amen. Alors, après des années d'observation, je ne me crois pas mieux que les autres, mais c'est une observation sans critique, où j'ai vu que parfois, on n'a pas pris le temps, en tant que chrétien, de mesurer l'impact que pourrait faire une vie de prière en chacun de nous. Oui, je parle aujourd'hui de la prière personnelle. C'est vrai qu'il y a la prière en assemblée, mais là, je suis en train de plaider la cause de ta relation, ta communion avec le Seigneur, ta prière. On n'a pas pris le temps. On a eu beaucoup de sujets à penser, même de sujets chrétiens. Mais quand on s'approche du Seigneur, le Seigneur va nous révéler, eh bien, ce que nous allons pouvoir vivre et gagner dans l'exaucement. Je parlerai dans la prière de l'impact dans nos familles. J'en ai parlé, je passe à côté sur le couple, sur la famille, mais aussi dans le travail, avoir du travail. C'est vrai que c'est un besoin. C'est vrai que c'est une recherche, mais le Seigneur, et j'ai entendu beaucoup de témoignages, quand on prie, le Seigneur peut nous donner d'une manière inattendue du travail. Et puis aussi, concernant la vie dans le travail, nos relations avec les collègues, avec le patron, l'ambiance, quand on a prié, on peut supporter, on peut patienter, on peut pardonner, on peut même prier pour ceux qui nous blessent et qui nous tracasse. Lorsque nous mesurons l'impact de la prière, c'est dans la direction, dans la vision. C'est-à-dire que nous sommes nés avec quelque chose de particulier depuis que nous sommes nés de nouveau. Le Seigneur nous a donné des talents, il nous a donné des dons. Et parfois on ne sait pas, toute la vie chrétienne, on peut la vivre sans savoir ce que le Seigneur vraiment attendait de nous. Et pourtant, quand on prie, le Seigneur nous révèle sa vision, son plan, les œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous, afin que nous y entrions et nous les pratiquions. Si on prie, le Seigneur va nous donner cela. Après tout, à quoi aurais-je servi le temps que j'aurais passé sur la terre? Prie, tu vas le voir, le Seigneur va te le révéler. Le Seigneur nous donne aussi, dans sa communion, eh bien, son approche. Et son approche, c'est la puissance du Saint-Esprit. Voyez, quand Jésus a dit « Vous recevrez une puissance », eh bien, les disciples se sont mis en prière. Ils priaient, ils persévéraient dans la prière. Et quand on prie, est-ce que nous réalisons que nous pouvons recevoir dans notre faiblesse la puissance du Saint-Esprit? Le Seigneur ne dit pas qu'il va fortifier notre personnalité, fortifier notre caractère, fortifier notre vieux moi pour que nous soyons, eh bien, des gens surprenants. Il ne veut pas que nous cherchions à être brillants, mais il veut que nous puissions être brillants de la puissance du Saint-Esprit. En se tenant devant lui, le Seigneur promet le Saint-Esprit à tous ceux qui le lui demandent. Et puis, voyez, quand on prie, on arrête de juger, de critiquer, de chercher la paille dans l'œil de l'autre, mais plutôt on prie pour nos ennemis, on prie pour ceux chez lesquels on s'aperçoit qu'il peut y avoir des défauts. Ça peut arriver, c'est très visible des fois, les œuvres de certains, elles paraissent à la lumière, mais au lieu de juger, de critiquer, prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère, et tu couvriras une multitude de péchés. Et puis, voyez-vous, quand on prie, on ne mesure pas l'impact que nous avons envers le faux Dieu de ce siècle. Satan, aveugle, il tient l'intelligence des gens pour qu'ils ne voient pas la splendeur de l'Évangile briller dans leur cœur. Mais quand le peuple de Dieu prie, ou quand toi tu pries tout seul dans ta chambre, l'ennemi doit s'en aller. Il sait très bien que tu ne te prévaux pas de ta capacité à le chasser, mais du nom de Jésus. Et c'est pourquoi nous devons combattre, parce que nous sommes entourés de mauvais esprits. Le diable rôde constamment pour chercher, pour voir qui il va dévorer. Mais puissions-nous prier, et cet impact en prenant les armes et la persévérance dans la prière fera fuir aussi le diable et bien des pensées lugubres, mauvaises, qu'il peut essayer de mettre en nous. Et puis, vous savez, mesurer la prière par rapport aussi à notre vie. Est-ce que ça va bien dans mon âme? Est-ce que ça va bien dans votre esprit? Vous savez, quand on prie, le Seigneur, il nous dit, voilà, je te convainc de péché. Je ne t'accuse pas, comme fait le diable, c'est un accusateur. Il veut nous culpabiliser, il veut nous remplir de remords, il veut nous plaquer à terre. Mais le Seigneur, lui, ce qu'il fait, il dit, tu vois, ce péché-là, celui qui t'enveloppe si facilement, eh bien, laisse-le. On est convaincu de péché quand on se tient devant lui. Sans quoi, on peut faire toute la vie en ayant des défauts, des péchés, on ne les a pas vus, et peut-être au final, ils peuvent être fatals. C'est pourquoi, quand on se tient devant Dieu, le Seigneur ne tarde pas, comme le disait David, sonde mon cœur, sonde mes reins. Connais mes voies, est-ce que je suis dans la voie de la vérité? Et c'est vrai, quand on se tient devant lui, je ne sais pas comment vous êtes, mais la première des choses, je dis, Seigneur, je veux bien te prier pour ceci, pour cela, mais avant tout, est-ce que je suis en règle avec toi? Est-ce que je n'ai pas un péché quelconque qui empêcherait que tu m'entendes, que tu m'écoutes? Et quand le Seigneur le révèle, eh bien, en même temps, il nous fait voir que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le juste, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés lorsque nous nous repentons et que nous les abandonnons. Alléluia. Alors, j'ai parlé de certaines choses qui sont comme ce plaidoyer pour que vous puissiez, et je sais que beaucoup le font, vous tenir devant Dieu, et cela de plus en plus. Ça, c'est mon but. Mon but aujourd'hui, je ne vais pas vous épater avec mes paroles. Je ne suis pas allé chercher quelque chose de trop profond, mais quelque chose qui est adaptable à votre vie et qui vous a été confié, qui vous a donné, été donné. Quand quelqu'un disait, maintenant ce n'est pas biblique, mais je vais juste dire entre parenthèses, quelqu'un disait que s'il y a un jour des larmes dans le ciel, c'est parce que nous n'aurons pas assez prié. Je ferme la parenthèse. Mais je veux le croire, Dieu essuiera toutes les larmes, mais que de personnes, eh bien, passent à côté d'une vie inouïe, extraordinaire, parce qu'ils ne prient pas. Alors j'en arrive à presque cette conclusion. Je ne serai pas trop long parce que il y a aussi des annonces, il y a aussi la suite du culte. Joël et mon fils vont aussi parler et nous allons vous dire au revoir parce que nous partons demain matin. Et c'est pour cela que je ne serai pas long. Et je vais arriver à une conclusion quand même parce que je ne peux pas passer à côté. Mais pourquoi donc nous ne prions pas suffisamment? Pourquoi donc, eh bien, ce domaine, il semblerait que c'est lointain ou que c'est réservé à une caste spirituelle? Non. Mais pourquoi? Parce que dans la vie, nous maintenons et nous entretenons des soucis dont nous pensons que le Seigneur n'est pas capable de nous les enlever et on ne s'en décharge pas. Et tant que nous supportons ces soucis, nous portons un fardeau dont il y a longtemps le Seigneur voudrait nous l'enlever, eh bien, obligatoirement, la vie de prière, elle est diminuée ou parfois inexistante. Et vous savez, l'ennemi peut vous dire aujourd'hui, oui, ce qu'il dit, cet homme, c'est bien, mais s'il savait dans quelle situation je suis, attendez, le Seigneur l'a bien dit, tu es fatigué, tu es chargé, viens à moi et je te donnerai du repos. Le Seigneur l'a bien dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, vos fardeaux, car il prend soin de vous. Qu'est-ce que vous voulez de plus quand il nous dit qu'il ne faut s'inquiéter de rien par la prière? Quand il nous dit que même vos inquiétudes ne vous arrangeront pas une coudée à la durée de votre vie, vous n'aurez pas de rallonge parce que vous vous faites du souci. Mais quand même, déchargez-vous sur le Seigneur. Et à partir de là, prenez acte pour mener une vie de prière. Et j'y viendrai sur le temps, parce qu'on dit des fois d'une manière pour fustiger la situation de ceux qui prient. Oh, vous savez, Dieu n'a pas de chronomètre, il ne faut pas regarder la montre. D'accord, mais quand même, quand on passe du temps avec le Seigneur, c'est là qu'il a le temps de faire son travail. Alléluia. Vous savez, quand Élie, à un moment donné, était découragé, il est allé dans une caverne, Dieu l'a appelé, il a dit, Élie, eh bien, que fais-tu ici? Alors, il a parlé et il a pris du temps. Et il est dit que Dieu a pris son temps. Il a fait passer un vent violent, a déchiré les montagnes. Mais l'Éternel n'était pas là. J'aurais pu dire, ah, j'ai eu mon vent violent, ça va. Non, l'Éternel n'était pas là. Et puis, il est dit qu'il est passé un tremblement de terre. Ah, j'ai eu mon tremblement de terre. Allez, levons-nous et allons ailleurs. Non, même dans le tremblement de terre, Dieu n'était pas là. Il est passé encore un feu. Oh, il y a eu le feu, il y a eu, on pourrait dire, une ambiance surchauffée. Mais l'Éternel n'était pas encore là-dedans. Il a pris son temps. Et en prenant son temps, il est devenu sensible à la voix du Seigneur. Un murmure doux et léger est venu jusque dans son cœur. Et là, il a entendu ce que Dieu voulait qu'il soit et qu'il fasse. Et vous savez, on ne prend pas suffisamment le temps. Alors déchargez-vous de tous vos soucis et prenez le temps devant le Seigneur. La fatigue, vous savez, la fatigue, c'est vrai, on peut dire qu'on s'use parfois à dépenser nos énergies pour des choses du monde. Je ne parle pas du travail, le labeur du travail, il le faut, c'est normal, c'est écrit, tu gagneras ta vie à la sueur de ton front. Mais quand même, il y a des fatigues dont le monde les a inventées pour nous prendre le temps, pour nous grignoter des nuits de sommeil, pour que le lendemain on soit fatigué. Et vous savez, le Seigneur, quand il a dit à Pierre, « Veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. » Vous croyez que le Seigneur ignorait que Pierre était fatigué? Mais l'ordre de Jésus était plus fort que la fatigue. Il avait les yeux qui tombaient, Pierre. Il n'a pas pu veiller et prier. Et pourtant, le Seigneur, dans sa parole, lui avait dit de veiller et prier. Et parfois, on dit, je suis fatigué. Le Seigneur dit, attends, ne parle pas de ta fatigue, mais parle de veiller et de prier avec moi. Parce qu'il nous renouvelle, le Seigneur, pendant la marche. Et quand on est fatigué, on peut poursuivre toujours parce que c'est lui qui renouvelle nos forces d'une manière extraordinaire. Jésus l'a dit, il a passé des nuits en prière. Et pourtant, quel travail, jamais tranquille, il n'avait même pas le temps de manger. Mais je crois que nous ne devons plus invoquer la fatigue, passons, commencer. Et commençons à goûter la présence du Seigneur, la vie avec lui. Et alors, vous allez voir combien le Seigneur met des forces capables de transcender la fatigue. C'est vrai, le repos, il le faut. Mais là encore, un repos fait sans Jésus, sans se confier en lui, c'est un repos artificiel. Et vous dormirez 10 heures, vous dormirez 20 heures, et pourtant, vous ne vous renouvellerez pas. On pourra vous faire des cures de sommeil. Je ne suis pas contre. Mais pourtant, ça ne vous renouvellera pas. Mais la présence du Seigneur est capable de vous donner l'équilibre du repos, du cycle biologique, mais en même temps, les forces dont vous avez besoin pour le glorifier, pour le servir. Alors, vous savez, on néglige la prière parce que parfois, c'est le manque de volonté. On attend d'être disposé. Je ne suis pas dispo. Bon, mais Seigneur, toi, au moment marqué, au jour favorable, tu m'as exaucé, tu m'as sauvé. Et vous savez, qu'est-ce que vous voulez attendre? D'être bien disposé? Commencez vous-même, et vous verrez ce que le Seigneur fera. Le Seigneur, un jour, il a dit à Josaphat, vous allez vous présenter devant l'armée ennemie. Présentez-vous seulement. Mais ce combat n'est pas le vôtre. C'est celui de Dieu. Et parfois, eh bien, on dit, je n'ai pas envie, je n'ai pas la volonté. Faites-le quand même. Et vous verrez après, lorsque vous sortirez de ces moments de prière, vous n'aurez qu'une envie, qu'une soif, la soif du Seigneur, la soif de sa grâce, la soif de voir sa gloire. On ne ressent rien parfois et on doute. Seigneur, je me tiens devant toi, mais je ne te sens pas. Je n'y reviendrai pas, mais vous savez, le temps que l'on accorde au Seigneur, c'est à ce moment-là que l'on sent, que vient et que l'on ressent sa présence. C'est parce qu'on passe trop vite devant lui. Je dis souvent en Afrique, quand ils ont la chance d'avoir l'adduction d'eau, ou alors quand ils puissent dans le puits, je dis, quand vous jetez le seau dans le puits et que vous tirez la ficelle, vous le relevez de suite, qu'est-ce qu'il y a dans le seau? Oh, ils me disent, il n'y a que quelques gouttes d'eau. Quand vous laissez le seau jusqu'à ce qu'il s'alourdisse et que vous tirez, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, le seau est plein. Et pourquoi? Parce que vous avez eu la patience d'attendre. Vous jetez le seau, vous tirez le seau. Eh bien, souvent, on ne ressent rien parce qu'on ne passe pas assez de longs moments devant le Seigneur. Et je vous en supplie, frères et sœurs, si vous ne l'avez pas expérimenté, et pour ceux qui l'expérimentent, ils sont tout à fait d'accord, ils sont en train de me soutenir dans la prière en disant « vas-y, continue ». Mais je veux vous dire que c'est vrai, passer du temps, longtemps, souvent devant le Seigneur, et vous allez voir comment vous allez sentir aussi sa présence. On est agité par la vie. Je prends l'exemple de Marthe, mais finalement, il fallait bien qu'elle prépare quand même pour faire manger Jésus et ses disciples. Moi, je ne suis pas contre. Je regarde aussi ce qui est écrit. Mais quand même, elle était agitée parce qu'elle n'a pas pris la priorité de se tenir devant le Seigneur comme sa sœur Marie. Après, elle aurait pu faire le travail en chantant, en étant contente et en ne critiquant pas sa sœur. mais parce que le défaut, la faille qu'il y avait dans Marie, c'est qu'elle était agitée et elle ne pensait qu'aux choses matérielles, des choses qu'elle avait à faire. Et vous savez que quand on veut prier, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a toutes sortes de pensées qui nous viennent à la tête et qui nous agitent, qui nous animent et qui veulent nous sortir de ce moment béni. Et le Seigneur dira, remarque Marie, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Elle a pris le temps de se tenir devant le Seigneur. Alors on invoque le temps, on a 16 heures de veille chaque jour, sur 24 heures, on dort 8 heures, ça c'est la moyenne. Mais les 16 heures, quand vous regardez bien, 8 heures de travail, mais il reste encore. Et ce temps qui nous reste, à quoi l'employons-nous? Je vous laisse répondre au Seigneur. Pourrons-nous un jour lui dire, Seigneur, je n'ai pas eu le temps de me tenir devant toi quand je vois tout ce que tu avais préparé pour moi d'avance, tout ce que j'allais faire, tout le monde que j'allais sauver parce que j'aurais passé du temps devant toi. On pourra dire au Seigneur, je n'avais pas le temps? Le Seigneur a dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toute chose. Nous savons trouver le temps pour manger, pour dormir, pour travailler. Pourquoi nous ne prendrions pas un temps comme, eh bien, un temps réglé comme le sommeil pour dire « Seigneur, je passerai tant de temps devant toi ». Et puis ça, je vais l'entourer d'un fil barbelé. Personne ne viendra violer ce moment-là parce que je le veux devant toi. Si vous ne le faites pas, si nous ne le décidons pas, on fera comme tout le monde. Ça, c'est le leitmotiv de tous. Écoutez, je n'ai pas le temps. S'ils voyaient la vie de fou que je mène à la maison, au travail, je n'ai pas le temps. Mais parfois, ce n'est pas une critique. Ces mêmes personnes, vous les voyez extasiées devant la télé pendant des heures. Donc, soyons vrais, mais quand même, rachetons le temps. Prenons le temps de nous tenir devant le Seigneur. Et il vous le rendra encore plus au centuple. Et vous serez dans la note même de racheter le temps comme nous en avons parlé l'autre dimanche. Et puis, vous savez, on néglige la prière, je ne vais pas trop m'y étendre, mais souvent parce qu'on garde une mauvaise conscience. Et quand on garde une mauvaise conscience, qu'on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui tourne pas rond dans notre âme, dans notre cœur, devant le Seigneur, eh bien, c'est l'évitement. Non, on ne veut pas prier parce qu'on sait que quand même, quelque part, il va nous attraper, il va nous coincer, il va nous dire c'est ça. Mais pour le moment, je ne suis pas déterminé à ôter le péché. Enfin, je ne veux même pas l'appeler un péché, mais, et là, je voudrais vous dire que le péché nous empêche d'être en communion avec le Seigneur. Je ne vous apprends rien, vous le savez. Mais est-ce qu'il n'y a pas pour vous, chez vous, quelque chose dont vous savez? Ça peut être la langue, ça peut être les yeux. Ça peut être la pensée, même s'il n'y a pas l'acte, qui fait que vous n'êtes pas en règle devant le Seigneur. Ça peut être quelque chose que vous faites dans le secret, que personne ne sait, et que vous savez que le Seigneur voit, et vous n'êtes pas tranquille. Et donc, vous ne pouvez pas accepter ce que je vous dis aujourd'hui pour passer du temps devant le Seigneur, parce qu'il va vous convaincre de suite. Mais il le fait parce qu'il vous aime. Vous le savez, aucun péché ne rentrera dans le ciel. Et si vous collez à vos péchés, celui qui pêche, il est esclave du péché. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, je t'aime tant que je te convainc de pécher, mais aussi en même temps, sache que par mon sang, je peux te purifier, te laver, t'enlever les culpabilités et te donner de passer beaucoup de temps devant moi. On se contente parfois aussi de tout ce qu'on a. On peut louer le Seigneur et pourtant, comme les frères et sœurs de Laodicée, dire « Je n'ai besoin de rien ». Comment? Je le dis au nom du Seigneur, ce n'est pas parce que moi je prêche, mais je dis ce que je suis en train de vous prêcher, c'est ton besoin personnel. Tu as besoin d'entrer dans ta chambre, de fermer ta porte et de prier. Parce que bientôt, tu vas dire, oh, je n'ai besoin de rien. Et peut-être trop tard, tu diras, mais Seigneur, nous t'avons entendu enseigner dans nos rues. Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons prophétisé. Et le Seigneur dira, je ne te connais pas parce que tu commets l'iniquité. Il ne s'agit pas pour nous de se contenter parce que les Laodicéens savaient très bien, parce que l'Esprit de Dieu leur a dit, la tiédeur est coupable. La tiédeur, elle va dans une issue fatale. Et si on est tiède, eh bien le Seigneur nous vomira de la bouche. C'est pourquoi on ne peut pas être content. Priez beaucoup, passez beaucoup de temps à chercher le Seigneur, passez du temps devant lui, parce que c'est là qu'il vous réchauffera le cœur, l'âme, et que vous serez en phase directe avec ce que le Seigneur veut faire de chacun de vous. On ne peut pas dire, moi maintenant, eh bien, je suis content de l'état où je suis. Bien sûr, Paul l'a dit, mais quel homme de prière, et qu'il a dit aux autres, priez sans cesse, je m'adresse à vous, je m'adresse à toi, passe du temps devant le Seigneur. Je conclus en disant que quand même, l'ennemi fera tout pour que ce message soit accepté à 2,5 sur 5, et non sur 5. Mais il est un menteur, et je le dénonce aujourd'hui. Je sais que je dis la vérité. Je sais que l'ennemi voudra tout faire pour saper notre vie de communion avec le Seigneur, parce qu'il le sait très bien. Il a une peur mortelle des hommes, des femmes, des jeunes qui prient, des couples qui prient. Il a une peur mortelle des intercesseurs qui prient et qui dénichent les âmes derrière les fourrés, qui les font passer de la mort à la vie. Le diable a peur de cela. Mais, frères et sœurs, réagissons, secouons notre indifférence et disons aujourd'hui, je prends toutes les armes, Éphésiens 6, je les prends et pour qu'elles soient efficaces, pour lier les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants, je ferai que ces armes seront efficaces par une prière persévérante et qui ne se relâchera jamais. Ainsi l'ennemi comprendra qu'il ne faut plus continuer comme ça à nous attaquer et à nous saper la vie de prière en un point tel que nous risquons à devenir un troupeau qui suit mais qui n'a pas de vie en lui-même. Alors, secouons maintenant notre vie, énergisons tout notre être entier et prenons une disposition aujourd'hui. Seigneur, aujourd'hui, je prends acte de ce que tu me dis. Si vous voulez croire que c'est la parole de Dieu, eh bien, vous mettez sur un papier, je prierai tous les jours, à telle heure, je me lèverai même s'il faut demi-heure avant, mais en tout cas, comme le disait quelqu'un, la réponse à nos prières, c'est toujours plus de prières. Quand vous aurez goûté demi-heure, quand vous aurez goûté une heure, devant le Seigneur, bien sûr sa parole, parce que la prière des fois c'est le silence, eh bien vous aurez envie encore de prier et vous mesurerez tous les jours avec l'approbation du Saint-Esprit l'impact que vous avez eu pendant la courte vie que nous avons sur la terre. Priez sans cesse. Seigneur, aide-nous à vivre ta parole. Donne à mes frères et à mes sœurs et à moi-même, qui ai prêché cela pour ne pas être rejeté, de le vivre. Seigneur, c'est en comptant sur toi, je sais qu'il y a des décisions, qu'il y a une détermination qui est prise de la part de ton Église, et que maintenant, Seigneur, tu seras servi de la bonne manière, tu seras servi comme tu le veux, parce que tout dépendra de notre communion avec toi. Et c'est elle, cette communion avec toi constante que nous voulons avoir jusqu'au jour où nous te verrons face à face. Amen.